chaque chose en son temps. Essayez de rester avec chaque respiration. Si c'est trop de penser à rester ici pendant une heure entière, restez avec cette respiration et ensuite cette respiration. En fait, si vous commencez à trop anticiper, vous allez rater cette respiration et vous allez rater le moment où l'esprit s'esquive. Mais si vous faites en sorte que les choses restent petites, gérables, vous faites un bien meilleur travail. Alors, cette respiration, cette respiration, cette respiration. Et en ce qui concerne vos respirations passées, eh bien, d'abord, elles ne sont plus là. Et le fait que vous ayez pu rester ou non avec elles n'a plus d'importance. Ce qui compte en ce moment même, c'est cette respiration. De façon similaire, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper des respirations futures non plus. Vous ne pouvez pas être responsable maintenant du fait que, plus tard, vous allez rester avec elle ou non. Vous serez responsable dans le futur si vous apprenez à être responsable maintenant. Alors, faites chaque chose en son temps. Même lorsque la méditation n'est pas particulièrement facile ou agréable, faire chaque chose en son temps permet de la rendre beaucoup plus gérable. En d'autres termes, si la respiration n'est pas vraiment passionnante ou absorbante, et que vous ressentez une douleur ici ou là, c'est beaucoup plus facile de faire chaque chose en son temps. Du temps où j'étais en Thaïlande, je suivais un circuit assez long pour quêter ma nourriture. Et certains jours, il pleuvait à verse. Je n'avais aucun moyen d'éviter d'être mouillé, malgré mon grand parapluie. Le vent soufflait. La pluie venait de tous les côtés. Et lorsque je pensais à l'heure et demie que j'allais passer là-bas, dehors, à avancer péniblement dans la boue, j'avais du mal à rassembler l'énergie nécessaire pour faire ne serait-ce que le premier pas. Mais ensuite, bien sûr, je me rendais compte que si je n'allais pas quêter ma nourriture, je n'aurais pas à manger ce jour-là. Alors, je faisais chaque chose en son temps, ce pas, et après ce pas, et après ce pas. Vous seriez surpris de voir à quel point, lorsque vous faites chaque chose en son temps, cette heure et demie passe vite. À quel point c'est gérable, même lorsqu'il pleut à verse. Vous ne vous surchargez pas avec le passé ou l'avenir, avec le nombre de pas que vous avez faits, avec le nombre de minutes que vous avez passées sur la route, et avec le temps que cela prendra avant que vous ne soyez de retour au sec. Vous êtes ici même, ici même, ici même. Et vous trouvez qu'être ici même, ça va, c'est gérable. Ce n'est peut-être pas le moment idéal, mais au moins, c'est gérable. Ce principe peut vous aider à surmonter de nombreuses situations. Lorsque vous avez affaire à la douleur, souvent la douleur devient vraiment très forte, non pas tant parce que la sensation physique réelle est pénible, mais parce que vous vous surchargez de pensées au sujet de la douleur passée et vous vous demandez combien de temps la douleur va encore durer. Et alors, tout ce passé et tout ce futur pèse sur ce petit moment présent, et ce n'est pas étonnant que le présent plie sous la charge. Mais si c'est ce moment seul que le présent doit supporter, alors vous vous rendez compte qu'il en est capable. Il peut résister à n'importe quel poids du moment. Donc, la capacité à se focaliser exclusivement sur ce qui se passe ici même, en ce moment même, est une habileté très utile. Mais ce n'est pas la seule habileté que nous devons développer pendant que nous méditons. Il y a des gens qui veulent réduire l'ensemble de la méditation à ceci, être dans le moment présent. Mais c'est seulement une des habiletés que nous avons besoin de développer. Il y a aussi l'habileté qui consiste à faire du moment présent un endroit où il fait bon être. Et cela demande d'avoir quelques souvenirs du passé. Ce qui a marché dans le passé, ce qui n'a pas marché dans le passé. C'est ce qu'on appelle l'utilisation habile du passé. Tout comme il existe une utilisation habile du futur. Sentir que cette pratique mène quelque part, qu'elle a un sens, que cela va vous conduire à la liberté totale. Et lorsque vous travaillez sur vos habiletés, vous allez voir que vous ne serez pas toujours en train de trébucher et de tomber par terre, et de devoir vous remettre sur pied, vous épousseter, faire quelques pas de plus et trébucher à nouveau. Il n'en sera pas toujours ainsi. Il arrive un moment où vous pénétrez vraiment dans la respiration et où vous commencez à remarquer des schémas. Si vous n'aviez pas de souvenirs du passé et aucune idée au sujet du futur, vous ne seriez pas capable de voir des schémas. Les schémas au sein de ce que vous avez fait, les résultats qui se produisent lorsque vous faites certaines choses. Cela requiert de savoir utiliser le passé de façon habile. Certaines de vos actions auront des résultats dans le présent immédiat, mais pour d'autres, cela prendra du temps pour que les résultats deviennent visibles. Si vous n'avez pas ce sens de sati, et c'est ce que ce souvenir du passé est, sati, si vous ne possédez pas ce sati, vous ne pouvez tirer profit d'aucune leçon. Et bien que chaque moment présent puisse être un merveilleux moment de nouveau débutant, vous n'en apprenez cependant rien. Vos progrès se trouvent court-circuités ici même. Donc, une habileté importante dans la méditation réside dans la manière de faire un usage habile du passé, un usage habile du futur. Le Bouddha a exposé les grandes lignes de ceci dans ses enseignements au Kalama, ainsi que dans ses enseignements à son fils Rahula. Remarquez l'intention derrière ce que vous faites. Observez ce que vous faites pendant que vous le faites, et ensuite, guettez les résultats. Remarquez le rapport entre le type d'intention et le type de résultat que vous obtenez, soit immédiatement, soit après un certain temps. C'est cela, l'utilisation habile du passé. Il y a utilisation malhabile du passé lorsque vous vous précipitez en arrière, soit pour vous réjouir, soit pour vous attrister à propos de la manière dont étaient les choses dans le passé. Il y a utilisation malhabile du futur lorsque vous commencez à anticiper ce qui va se passer dans le futur avec soit du désir, soit de l'aversion, ou encore de la peur. La seule peur qui est vraiment utile est celle des conséquences des actions malhabiles. C'est ce qui vous maintient sur la voie dans le présent. Une autre utilisation habile du futur, c'est d'anticiper les bénéfices que vous allez retirer lorsque vous aurez maîtrisé ceci. Mais malgré tout, il vous est absolument impossible d'arriver à ce stade si vous ne suivez pas les différentes étapes. Donc, apprenez à reconnaître lorsque votre esprit vous renvoie dans le passé ou qu'il vous projette dans le futur. Quelles sont les manières habiles de faire intervenir le passé ou le futur? Et quelles sont les manières malhabiles? Parfois, une réflexion habile sur, disons, le futur pourrait être « La mort pourrait survenir n'importe quand. Es-tu prêt à partir? Si tu ne l'es pas, eh bien, que vas-tu faire tout de suite pour te préparer? » Ça, c'est utiliser le futur comme un aiguillon. Donc, lorsque vous vous rendez compte que le passé et le futur ont chacun leur utilité, vous donnez une dimension plus vaste à la pratique. Si la pratique consistait simplement à rester dans le moment présent, nous pourrions tous sortir et nous faire faire une lobotomie et le problème serait réglé. Mais cela ne fonctionne pas comme cela. Vous avez besoin d'avoir un certain sens du passé. Vous devez être observateur et vous souvenir de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché dans le passé et voir comment ces leçons s'appliquent au moment présent. Parfois, vous devez réapprendre une leçon ou adapter une leçon passée parce que ce qui semblait avoir marché dans le passé peut ne pas marcher cette fois-ci. Cela signifie simplement que vous devez encore mieux observer ce qui se passe. Cela ne signifie pas que vous rejetez totalement le passé. Cela signifie que vous prenez vos connaissances et que vous les adaptez, que vous les affinez. Et c'est ainsi que la pratique se développe, au fur et à mesure que vous tirez profit de vos erreurs passées et également de vos succès. Donc, souvenez-vous que la pratique possède une autre dimension que celle d'être seulement dans le moment présent. Mais l'habileté à rester dans le moment présent est l'une des plus difficiles à apprendre. Et c'est la raison pour laquelle nous insistons tellement dessus. Après tout, où allez-vous observer les choses si vous n'observez pas vraiment le moment présent? Si les leçons que vous avez apprises dans le passé ne marchent pas, c'est peut-être parce que vous n'observiez pas vraiment à ce moment-là. Cela constitue une occasion pour être plus observateur, plus précis, à chaque respiration. Apprenez à quel moment du cycle de la respiration vous avez tendance à perdre votre focalisation. Pour certaines personnes, c'est entre l'inspiration et l'expiration, ou entre l'expiration et l'inspiration. Parfois, c'est lorsqu'une forme de respiration particulière est inconfortable. Vous n'aimez pas cela et vous partez. Donc, apprenez à observer toute forme de serrement ou de tension qui peut apparaître dans la respiration. Faites attention à la tendance à perdre votre focalisation entre les respirations. Voyez ce que vous pouvez faire pour contrer ces tendances. Demandez-vous comment vous reconnaissez le point où l'expiration se transforme en inspiration. Dans certains cas, c'est très subtil. Et nous avons tendance, lorsque nous créons une ligne de démarcation de ce type, à l'accentuer plus que ce n'est vraiment nécessaire. Donc, observez si cette tendance est également présente, parce que cela crée beaucoup de blocages et de tensions inutiles. Essayez de suivre le cycle complet de chaque respiration, du début jusqu'à la fin, aussi précisément que vous le pouvez. Ensuite, à la fin de la méditation, vous pouvez vous arrêter et revenir sur ce que vous avez fait, sur les leçons que vous avez apprises. Certaines leçons sont immédiatement évidentes. Vous faites quelque chose et vous obtenez immédiatement de bons ou de mauvais résultats. Avec ces leçons-là, vous n'avez pas besoin de trop revenir sur le passé. Elles se trouvent ici même. Les autres leçons, vous les apprenez en revenant sur, disons, une mauvaise séance. Qu'êtes-vous en train de faire? Pourquoi cela ne se passe-t-il pas bien? Lorsque vous avez de bonnes séances de méditation, revenez dessus après avoir terminé. Qu'avez-vous fait? Comment avez-vous focalisé l'esprit? Prenez cette leçon et classez-la pour pouvoir vous y référer dans le futur. Vous pouvez, lorsque vous la retirerez de votre classeur mental, découvrir que votre observation n'était peut-être pas aussi précise que vous l'auriez souhaité. Mais vous avez beaucoup de respirations à observer, beaucoup d'occasions de réapprendre vos leçons. Donc, c'est un chemin progressif, un chemin graduel, mais il n'y a rien de mal à cela. Heureusement, Theravada n'a jamais eu de Shen Rui, le Rush Limbo de la tradition Chan, avec sa conviction absolue en l'éveil soudain, qui a méchamment tourné en ridicule toute allusion à une voie graduée, toute allusion à une habileté à développer, comme étant un obstacle à l'éveil. Les choses se sont passées de telle manière qu'après cela, personne dans la tradition Chan n'a plus osé parler de méthode ou de progrès. Heureusement, le Theravada n'a pas ce problème. En fait, il a le problème inverse. Il y a un passage dans l'Udana où le Bouddha compare la pratique au plateau continental au large de l'Inde. Il y a d'abord une pente graduelle et ensuite une chute soudaine. Les commentaires ont réinterprété ce passage pour que cela signifie totalement graduel, sans aucune chute soudaine. Mais en pali, il est dit de façon évidente qu'il y a une chute soudaine. Donc, La pente graduelle vous conduit vraiment dans la bonne direction. Sans la pente graduelle, vous ne pourriez pas arriver à la chute soudaine. Sans la chute soudaine, la pente graduelle n'aurait aucun sens en termes d'ouverture sur quelque chose de vraiment nouveau. Mais étant donné la manière dont la causalité fonctionne, il y a la possibilité de faire des observations graduelles, très précises à propos de votre respiration, de devenir de plus en plus habile à mesure que vous apprenez avec le temps. Ensuite, vous atteignez finalement le stade où tout s'ouvre de manière inattendue. C'est en cela que la voie est à la fois graduelle et soudaine. Donc, alors que vous travaillez sur chaque respiration, souvenez-vous que vous êtes sur une voie qui peut prendre beaucoup de temps, mais chaque voyage requiert des pas individuels. C'est pour cela que le Bouddha l'a appelée une voie. Si ce n'était pas une voie, elle n'aurait pas de direction. Mais elle possède vraiment une direction, et les pas graduels que l'on fait sont de bons pas. Toutes les bonnes choses ne sont pas réservées pour la fin. Mais en fin de compte, lorsque vous pénétrez de plus en plus précisément dans le moment présent avec plus d'habileté, l'habileté que vous avez apprise du passé, ces pas graduels débouchent soudainement sur quelque chose de totalement autre. Et on peut trouver tout cela ici même. Vous n'avez pas besoin de regarder ailleurs. C'est l'une des choses étonnantes à propos des enseignements du Bouddha. Toutes les leçons importantes que nous devons apprendre se trouvent ici même. Nous n'avons pas besoin de spéculer sur un événement qui se serait déroulé tout au début de l'univers. Ce n'est pas pertinent. Nous n'avons pas besoin de placer tous nos espoirs dans le jour du jugement dernier, à la fin de l'univers. Cela n'est pas pertinent non plus. Les choses pertinentes sont ce que nous pouvons voir par nous-mêmes, ici même, en ce moment même. Les choses changent. Eh bien, comment changent-elles? Leurs changements suivent-ils un schéma? Observez ici même et vous découvrirez. Observez d'une façon qui devient de plus en plus précise au fil du temps, en apprenant comment faire un usage habile non seulement du présent, mais aussi de vos souvenirs et de votre attente de là où vous voulez que cela vous conduise dans le futur. Apprenez à développer ces choses correctement et elles deviendront une partie de la voie.